Bonsoir. Le 29 mai de chaque année, l'humanité célèbre la journée internationale du casque bleu. À cette occasion, le secrétaire général de l'ONU a rendu hommage au casque bleu actuellement déployé dans des opérations des maintiens de la paix à travers le monde, dont en RDC. Selon Ban Ki-moon, en RDC, les casques bleus ont combattu des groupes armés et ont réussi à convaincre des ex-combattants à déposer les armes. Quelle analyse faire de l'action des casques bleus à travers le monde, en RDC en particulier? Nous en parlons avec Maître Juvenal Munumbu Mubi, il est député national de l'opposition et cadre de l'UNC. Il est rapporteur de la sous-commission Forces armées de la Commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Bonsoir Maître Juvenal Munumbu Mubi.
Bonsoir Monsieur Guy, bonsoir à tous les auditeurs.
Dieudonné Kishi, il est cadre de la majorité présidentielle. Bonsoir Monsieur Dieudonné Kishi.
Bonsoir, bonsoir à tous les auditeurs.
Et Maître Michel Kaboui, directeur du Centre des recherches sur les opérations de maintien de la paix. Bonsoir Maître Michel Kaboui.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
La journée internationale des casques bleus est célébrée chaque 29 mai. Ils sont plus de 105 000 policiers et militaires à servir sous les couleurs du drapeau de l'ONU à travers le monde. Ces soldats de la paix sont originaires des 124 pays qui fournissent le contingent. D'après les statistiques des Nations Unies, ce nombre a presque triplé il y a 15 ans. Dans son message à cette occasion, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, qui leur a rendu hommage, indique que les casques bleus incarnent les aspects les meilleurs de la solidarité mondiale et servent avec courage dans les environnements dangereux pour assurer la sécurité des centaines de populations les plus vulnérables. Innocent Olinga pour les détails.
Le secrétaire général de l'ONU note que la croissance massive que connaissent depuis quelques années les opérations de maintien de la paix des Nations Unies, tant par leurs effectifs que par leur complexité, témoigne de la confiance qu'elles inspirent dans le monde. Ban Ki-moon fait savoir qu'au cours de l'année écoulée, les casques bleus déployés dans 16 opérations de maintien de la paix à travers le monde ont sauvé d'innombrables vies, ont fait progresser la cause de la paix et ont suscité l'espoir. Ils l'ont fait, notamment au Soudan du Sud, en République centrafricaine, dans l'Est de la République démocratique du Congo, au Mali, en Haïti et même au Libéria, où ils ont assuré la sécurité des experts internationaux qui s'efforçaient d'enrayer la propagation du virus d'Ebola. En cette journée internationale des casques bleus, Ban Ki-moon déclare, je cite, « Nous rendons hommage à nos héros, plus d'un million d'hommes et de femmes qui ont servi sous les couleurs du drapeau des Nations Unies avec fierté, distinction et courage depuis les premiers déploiements du personnel de maintien de la paix en 1948. Nous saluons avec gratitude la mémoire de plus de 3400 casques bleus qui, depuis cette date, ont trouvé la mort dans l'exercice de leurs fonctions. Nous leur sommes à jamais reconnaissants. » Fin de citation.
Merci Innocent Olinga, Dieudonné Kishi, je rappelle que vous êtes cadre de la majorité présidentielle. Journée internationale des casques bleus, comment réagissez-vous à l'hommage rendu à ces soldats de la paix à l'occasion de cette célébration?
Merci beaucoup Guy Maté, c'est un hommage mérité, parce qu'il faut avouer que la création des Nations Unies, avec ses deux missions principales, fait qu'aujourd'hui le monde est plus ou moins équilibré. Aujourd'hui, les missions de paix, au moins les 16 missions de paix que nous avons à travers le monde aujourd'hui, avec 105 000, vous l'avez rappelé, 105 000 policiers et militaires qui travaillent, c'est un travail extrêmement exaltant de voir des citoyens du monde qui s'élèvent pour la cause. Et le secrétaire général des Nations Unies l'a souligné qu'il y a une croissance massive des missions des Nations Unies, il y a les progrès de la cause de la paix. Et donc, lorsqu'on voit les hommes et les femmes qui s'élèvent pour la cause de la paix, nous ne pouvons que saluer. Mais cependant, il y a aussi une note plus ou moins négative, c'est quand nous voyons, nous, ici en République démocratique du Congo, ce qui se passe. Notamment, il faut ici... Et peut-être garder une minute de silence pour nos frères et sœurs qui sont morts sous leurs yeux également, à l'Est, notamment à Béni. Donc voilà ce que je peux dire.
Hommage mérité, comme vous le dites. Et, mais comment vous analysez leur action à travers le monde en RDC? Et c'est vrai que les réalités ne sont pas les mêmes partout, chaque pays ayant ses particularités. Mais de façon générale, comment vous jugez l'action de ces soldats de la paix à travers le monde?
Bon, du moment où ils sont là pour rétablir la paix ou imposer la paix, je ne peux qu'évaluer positivement cette mission. Mais quand le secrétaire général des Nations Unies dit qu'il y a croissance massive des missions de paix, c'est aussi quelque part un aveu d'impuissance.
Pourquoi?
Parce que il ne devait pas y avoir des situations de conflit au moment où nous avons l'ONU. C'est vrai que les conflits sont inhérents à la vie humaine, hein, mais quand il y a croissance massive des missions des Nations Unies, ça signifie que quelque part, il se pose un sérieux problème. Il y a toujours des situations qui créent des conflits, qui créent des situations difficiles. Au moment où aujourd'hui, un monde d'aujourd'hui devrait quand même être un monde beaucoup plus civilisé qu'en 1945. Donc c'est là que je me dis, il y a encore beaucoup à faire. Est-ce que l'ONU suffit encore à la situation d'aujourd'hui, ou bien il faut penser à autre chose?
Désolé Kishi, la MONUSCO est présente en RDC depuis 1999. Ouais. S'il faut établir, s'il faut dresser un bilan des 17 ans de sa présence en RDC, que diriez-vous?
Je vais vous révéler d'abord que lorsque la mission, la MONUC, en 1999, déjà s'installe ici, nous étions parmi les premiers étudiants qui ont accueilli Kamel Morjane, ici, le premier secrétaire général des Nations
Unies. Le premier représentant.
Le premier représentant du secrétaire général.
Du Congo.
Ok. Nous étions là, nous l'avons amené jusqu'au campus pour animer une conférence. Nous sommes parmi les étudiants qui ont tout fait pour qu'on puisse réhabiliter une salle qui, jusqu'aujourd'hui, porte son nom. Ça signifie que nous avons vu la MONUC s'installer, comme nous avons vu aussi ses missions se transformer jusqu'à devenir la mission de stabilité, pour la stabilisation du Congo.
Mais les bilans
restent mitigés. Les bilans posent problème parce que jusqu'aujourd'hui, c'est vrai, peut-être que nous avons trop compté sur elle comme citoyens du Congo. Peut-être que nous avons mis trop d'espoir sur la MONUSCO. Mais au vu des problèmes, et au vu des problèmes que nous avons, qui ne sont pas aussi des problèmes graves vus, évalués à la dimension, évalués aux moyens que la MONUSCO a, on peut se dire qu'il y a quelque part un problème également.
Bilan mitigé, comme vous le dites, la guerre du CNDP éclate après 2006, et avant cela, il y avait cette action conjointe de Mutebusi et Laurent Kunda dans la ville de Bukavu, alors qu'on venait d'observer une certaine accalmie pendant plusieurs mois à la faveur de l'accord de San City, M. Nkishi. Et ce genre de phénomène ne reflète-t-il pas les limites des efforts et des maintiens de la paix, notamment en ce qui concerne la stabilisation des zones qui ont connu la guerre?
Oui, effectivement, ça dénote justement des limites de mission de maintien de paix. Mais au-delà de ça, il y a une question...
Et les problèmes se situent à quel niveau? Les problèmes se situent au niveau du Conseil de sécurité qui accorde des mandats à ces forces de maintien de la paix, ou au niveau des principes de souveraineté des États, et principes qui doivent être pris en compte par ces forces qui viennent intervenir pour aider ces États, n'est-ce pas, à ramener la paix et là où il s'est posé des problèmes de guerre?
Moi, je suis de ceux qui pensent que ce n'est ni l'un ni l'autre. Dans la mesure où... lorsque vous regardez la plupart des conflits qui éclatent, surtout dans les pays d'Afrique, vous allez vous rendre compte que les pays et les Nations Unies se battent contre les conséquences. Ils se battent contre les conséquences alors que les causes sont là. Et parmi les causes, c'est justement les pays qui fabriquent et qui arment les citoyens africains. Lorsque vous regardez... En général, vous ne voyez pas un seul pays d'Afrique qui fabrique les armes comme telles. Mais lorsque nous mettons les missions de paix et tout ça, nous nous battons contre les conséquences alors que les causes sont là. Parmi les causes, si on pouvait créer une instance des Nations Unies qui bloque la prolifération des armes, la fabrication, la distribution d'armes, je pense qu'on peut, ça peut efficacement contribuer à stopper certains phénomènes.
Merci, Maître Juvenal Mounoubo Moubi, député national de l'opposition et cadre de l'UNC. Vous êtes rapporteur de la sous-commission Forces armées de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. Ban Ki-moon affirme que les casques bleus incarnent les aspects les meilleurs de la solidarité mondiale et servent avec courage dans les environnements dangereux pour assurer la sécurité des centaines de populations les plus vulnérables. Votre réaction à cet hommage rendu par le secrétaire général des Nations Unies au casque bleu?
Il faut le dire, c'est un hommage à l'occasion d'une circonstance, d'une commémoration. Et donc, ce n'était pas une évaluation. Parce que si c'était l'évaluation de l'action...
C'était juste un hommage.
Si c'était l'évaluation des opérations de maintien de la paix, je crois que le discours du secrétaire général de l'ONU n'allait pas être celui-là. Je comprends à partir de ces discours un encouragement. Peut-être à ces militaires, parce qu'il faut savoir que c'est des militaires qui voyagent, qui vont loin de leur pays d'origine. C'est quand même un sacrifice qu'il faut saluer.
Et donc, Dilone Kishi a jugé mitigé l'action des Nations Unies à travers le monde et en RDC. Est-ce que vous partagez ces
points de vue? Je partage ce point de vue. C'est un bilan controversé en tout cas, parce qu'il y a des choses positives que la MONUSCO a réalisé ici, mais il y a, sur d'autres points, il y a lieu de réfléchir. Mais le préalable en tout, c'est la responsabilité d'abord du gouvernement. Ça, c'est très important. Pour comprendre la mission de l'ONU ou la MONUSCO ici, le mandat, pour comprendre si elle a été efficace ou pas, il faut d'abord comprendre qui est le premier responsable pour assurer la sécurité des personnes et des biens. La sécurité et l'intégrité du territoire, c'est le gouvernement, c'est l'armée, c'est la police, c'est les services de sécurité, etc. Ça, c'est un préalable. Si vous perdez ça de vue, eh bien, vous pouvez penser, comme vient de le dire M. Nkishi, à un moment donné, il a dit peut-être qu'on a trop espéré à l'ONU. Vous voyez? Si on a trop espéré à la MONUSCO, c'est que, quelque part, on a oublié que les tout premiers responsables, ou la responsabilité au premier chef, comme c'est dit dans la résolution 2277, ça relève du gouvernement.
Et donc, vous voulez dire que quand il y a échec dans l'accomplissement des mandats quelconques, les casques bleus ne doivent pas seuls assumer cet échec?
Exact. Pourquoi? Parce qu'à l'avant-plan, il y a d'abord l'armée, l'armée nationale. Il faut savoir qu'il y a des principes qui guident les opérations de maintien de la paix. Il y a d'abord le consentement. Il faut que l'État accepte que la mission arrive. Ce fut le cas pour notre pays. Et puis de deux, il y a l'impartialité des casques bleus. Il y a aussi l'usage de la force, parce que la notion de l'usage de la force a évolué. Et il y a eu d'abord au départ la légitime défense. Si vous voyez les anciennes missions de l'ONU, c'était beaucoup plus en termes de légitime défense. Mais de plus en plus, on insiste sur l'usage de la force si les populations civiles sont en danger. Et c'est là où se situe le débat, parce que les populations civiles sont évidemment en danger à l'est du Congo. Lorsque les sources locales de la société civile indiquent plus de 1000 personnes tuées, c'est ce qu'il n'y a pas à philosopher. Les populations locales sont en danger. Quelles sont les forces? La coercition appartient à qui à l'est du Congo? Ça appartient d'abord à l'État congolais, l'État congolais qui a une armée là-bas. Si vous arrivez à Irengeti, vous arrivez à Oicha, Mbau et Kamango, eh bien, on vous dit qu'il y a des positions FRDC. Une autre force de coercition qu'il y a dans la zone, c'est justement la MONUSCO. Et donc, c'est à partir...
Mais l'initiative revient au FRDC d'abord.
Effectivement. Celui qui donne le go, en tout cas, c'est l'armée congolaise. Et les FRDC viennent en appui. Il y a des actions positives...
La MONUSCO vient
en appui. Il y a des actions positives qu'on a pu remarquer sur terrain. La chute du M23. C'est un exemple par excellence d'une meilleure collaboration entre celui qui est à l'avant-plan, c'est-à-dire le gouvernement congolais, et la communauté internationale. C'est un exemple éloquent, la chute du M23. Un autre... il y a d'autres exemples, évidemment, ça ne relève pas peut-être de la sécurité sur terrain, mais ça relève l'appui, par exemple, au processus électoral. Prenons le cas de 2006. Il faut aussi dire qu'il y a une guerre qui a été évitée de justesse ici à Kinshasa. Vous vous souvenez, lorsqu'il était question de la...
Entre les éléments fidèles à Jean-Pierre Bemba,
voilà,
et les éléments des FRDC.
Voilà, la MONUSCO a joué un grand rôle avec son représentant.
Mars 2007.
Oui, exact. Donc on a encore en mémoire cela. Il y a des exemples comme ça. Là où nous sommes, la Fondation Hirondelle, les partenariats avec MONUSCO, Fondation Hirondelle, la Radio Okapi, s'il existe des médias où il y a la garantie qu'on s'exprime librement, où il n'y a pas une ligne éditoriale déséquilibré, eh bien, il y a la radio Okapi qui arrive même dans les fins fonds du Congo. Il y a des exemples comme ça. Il y a le bureau. La RTNC n'est pas citée ici comme exemple d'impartialité par rapport à la gestion des informations.
Mais c'est une question de discipline.
La MONUSCO constitue aussi un observatoire des violations des droits de l'homme à travers le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Donc, c'est vrai, par rapport aux opérations sur terrain, c'est mitigé, hein, c'est controversé. Hein, il y a quelques rares exemples comme la chute du 1-23, mais lorsqu'on prend le siège de Goma, 1-23 qui s'empare de la ville de Goma, une semaine, l'armée a fui, la MONUSCO est là, eh bien, il y avait lieu, et ils ont raison les Congolais qui se sont posés des questions, mais comment cette grande mission, qui a un grand budget, 1,5 milliard de dollars, et que cette rébellion s'empare de la ville, un siège d'une semaine, donc ils avaient raison de s'interroger. Hein, c'est comme le cas de Beni. Comment se fait-il qu'on peut aller jusqu'à accumuler tous ces morts, et pourtant il y a deux forces importantes de coercition
les unités d'élite de ces deux forces, les unités d'élite de la MONUSCO et des FARDC, qui sont déployées depuis plusieurs années à Beni.
Exact, il y a les FARDC, il y a la MONUSCO, il y a la brigade d'intervention. Donc ceux qui s'interrogent, les analystes ou les citoyens congolais moyens qui s'interrogent, ils ont raison de s'interroger parce que les gens ne devraient plus continuer à mourir comme ça, comme si il n'y avait ni armée ni MONUSCO. Donc raison pour laquelle moi je plaide en faveur d'une restructuration de l'armée congolaise et des mesures. Il y a des mesures sur le long terme, effectivement. Il faut réformer en profondeur l'armée congolaise. Il faut motiver les militaires. Il faut équiper les militaires. Il faut un plan sur le long terme dans la réforme du secteur de sécurité. Il y a des mesures urgentes aussi, comme le changement des commandements à l'Est.
Merci.
Qui doivent être prises. Au niveau de la MONUSCO, je plaide aussi, et ça devrait être constamment un débat au niveau de New York, veiller sur l'efficacité de la MONUSCO, parce que on n'a pas encore atteint ce niveau d'efficacité. Il faut aussi, je sais qu'il y a un élément qui bloque souvent aussi cette efficacité, c'est le gel parfois qu'on voit dans la collaboration entre les FARDC ou le gouvernement et la MONUSCO.
Merci.
Vous avez vu comment ce gel a fait à ce que des groupes armés se réorganisent davantage.
Merci,
il y a aussi la collaboration, évidemment, entre ces militaires étrangers qui ne parlent pas les langues locales. Ça aussi, c'est un problème avec la population locale.
Merci, Maître Michel Kaboï, directeur du Centre de recherche sur les opérations de maintien de la paix. Votre analyse par rapport à l'hommage de Ban Ki-moon au casque bleu.
Merci pour la parole. Les Centres de recherche sur les opérations de maintien de la paix, COP en sigle, joint sa voix à celle de toutes ces personnalités qui militent pour les bonnes pratiques dans les opérations de maintien de la paix, et profite donc de cette occasion pour saluer la mémoire des 3409 casques bleus qui sont tombés sur les théâtres des opérations de maintien de la paix depuis la première opération de maintien de la paix de l'Organisation des Nations Unies pour la survie de la trêve au Moyen-Orient
juste en 1948.
En 1948. Nous profitons aussi de cette occasion pour rendre hommage à toutes les femmes et hommes éparpillés dans les 16 opérations de maintien de la paix de l'ONU actuellement en cours, qui sont au nombre de 122 000, qui, par leur professionnalisme, leur courage et leur dévouement, ont pu sauver les vies humaines. Mais ce que nous déplorons, c'est que ce professionnalisme, cette image de professionnalisme, ce courage, ce dévouement, ont été entachés ces dernières années par des abus et autres crimes à caractère sexuel. Tenez-vous, pour la seule année 2015, 69 cas d'abus sexuels ont été répertoriés et qui sont restés impunis jusqu'à ce jour. Donc nous pensons qu'il est plus que temps de voir dans quelle mesure l'ONU devrait prendre conscience enfin d'éradiquer tous ces cas. Tout simplement parce que bon, vous serez d'accord avec moi et par rapport aux auditeurs qui sont en train de nous suivre maintenant là, il y a eu plusieurs résolutions, il y a eu plusieurs règlements et mécanismes qui ont été mis en place par l'ONU pour éradiquer tous ces cas d'abus sexuels, mais qui n'ont pas apporté, qui n'ont pas connu un dénouement. La dernière tentative, c'est la résolution 2277, qui à ce jour n'a pas produit d'effet.
Oui, vous saluez le courage et le dévouement, n'est-ce pas, de ces soldats de la paix, et mais vous déplorez le fait que ces courages et ces dévouements ont été entachés par les actes d'abus sexuels. Vous êtes un expert dans des questions qui touchent au casque bleu. Avez-vous déjà essayé, n'est-ce pas, de réfléchir sur cette attitude qu'affichent certains casques bleus à travers le monde au sujet, n'est-ce pas, du comportement sexuel de ces soldats de la paix? C'est dû à quoi? C'est lié à quoi? C'est lié aux conditions dans lesquelles ces personnes travaillent, parce qu'on sait que c'est des gens qui sont déplacés de leur pays d'origine dans d'autres pays, les pays d'accueil. Ils sont seuls et sans leur famille, et ils vont travailler pendant longtemps sous stress dans des zones de combat. Est-ce que cela n'est pas, ce comportement qu'ils affichent n'est pas lié aussi aux conditions dans lesquelles ces gens travaillent?
Ce que les auditeurs doivent savoir, c'est que les casques bleus sont considérés comme l'organe civilisateur de l'ONU. Donc en quelque sorte c'est l'armée de l'ONU, et cette armée doit véhiculer l'image des marques de l'ONU. Quant à savoir si ces casques bleus, lorsqu'ils sont déployés sur des opérations de maintien de la paix, lorsqu'ils sont déployés loin de leur pays d'origine, quant à savoir est-ce qu'ils doivent se comporter de cette façon-là, nous disons non. Nous pensons que l'ONU doit fournir des efforts, doit voir dans quelle mesure monter des stratégies, comme nous l'avons souligné tout à l'heure, pour par exemple instituer une juridiction internationale qui sera chargée de juger tous ces cas-là.
Alors, au vu de leurs actions à travers le monde, les casques bleus peuvent être considérés comme une force défensive ou comme une force offensive?
Bon, vous savez que l'année dernière, Ban Ki-moon, après avoir analysé évidemment avec ses services les comportements des casques bleus sur le terrain des opérations de maintien de la paix, il a instruit, donc il a demandé à un groupe d'experts de travailler sur ces questions-là pour voir dans quelle mesure, les casques bleus peuvent désormais commencer à répondre aux problèmes actuels et à venir, notamment pour qu'elles soient plus rapides, plus réactives et davantage amenées à rendre des comptes aux autorités, surtout aux populations.
Oui, plus rapides, plus réactives. Mais est-ce que l'autre facteur qui a été relevé ici par l'honorable Mounoubo ne pourra pas poser des problèmes? C'est la souveraineté des États. Ces forces sont envoyées dans des pays souverains et où on leur dit vous devez respecter la souveraineté de ces États, vous devez tenir compte de la souveraineté de ces États. Et donc, chaque fois qu'il se pose un problème, même quand les civils sont menacés, en fait c'est l'armée nationale de ces États qui a l'initiative.
Oui, mais moi je ne souscris pas à l'approche de Maître Juvenal Mounoubo, parce que si nous devons tout simplement prendre le cas de la MONUSCO, vous savez que la MONUSCO, sa mission principale en République démocratique du Congo, c'est la protection des civils. Donc de par cette mission qu'elle incarne, la MONUSCO est obligée, est appelée à protéger les civils. Ne pas le faire, c'est d'engager sa responsabilité.
Mais à qui revient premièrement cette responsabilité dans un contexte comme celui de la RDC?
Cette responsabilité, à partir du moment où la MONUSCO a comme mission principale de protéger les civils, cette responsabilité de protéger les civils, du moins, ça dépend de quel contexte, revient à la MONUSCO. Bon, les amis avec qui nous sommes ici ont donné l'exemple de Beni. Hein? Vous savez que dernièrement, il y a plusieurs massacres qui ont été signalés à Beni, alors que la MONUSCO s'est trouvée à quelques mètres de ces atrocités. Nous pensons qu'il y a lié et qu'il est important que la MONUSCO puisse s'assumer par rapport à sa mission principale.
Monsieur Dédoné Kishi, il y a une question qui vous est adressée. Elle vient de Wamba, où elle est?
Jean-Pierre Mandei Anikanda, depuis Wamba, au Touélé. Ça sera vraiment injuste de dire que la MONUSCO n'a rien fait. Au contraire, elle a beaucoup contribué au maintien de la paix de la République démocratique du Congo. Le malheur est que notre gouvernement et la population cherchent à laisser la charge de la sécurité à la MONUSCO qui est venue en appui à nos forces armées.
Oui, monsieur Didon Keshi.
Bon, je crois que ici, jusque-là, je n'ai pas entendu ni de ma bouche, ni de la bouche de l'honorable, encore moins de Maître Michel, quelqu'un qui a dit que la MONUSCO n'a rien fait. Non, tous nous disons la MONUSCO a fait beaucoup. La MONUSCO a fait beaucoup, du moins jusque-là, mais là où,
il y a aussi beaucoup de choses qui restent à faire.
Là où nous l'attendons pour qu'elle fasse mieux, elle n'y est pas. C'est ce que nous disons. Parce que vous ne pouvez pas comprendre qu'elle est à quelques mètres, elle est à quelques kilomètres, et que les gens soient tués comme ça, comme nous avons vu, de manière macabre, à Beni. On ne peut pas s'expliquer une telle situation. Donc,
il y a des experts qui pensent que les forces qui viennent n'ont pas toujours les mêmes priorités et les mêmes intérêts que les États d'accueil, et que cela pourrait expliquer la persistance de l'insécurité dans les zones où sont déployées ces forces.
Alors,
on a connu ça avec la MONUSCO et les FRDC dans l'Est, à l'époque, alors que la MONUSCO estimait que la priorité était les ADF. Le gouvernement a dit non, pour nous, la priorité c'est plutôt les FTLR. Et ça a posé un problème pendant un certain moment. Et cela a poussé, n'est-ce pas, les groupes armés à pouvoir se renforcer, comme l'a relevé l'honorable Mounoubou.
L'honorable a dit ici que le premier responsable c'était le gouvernement. Mais vous savez, lorsque chez moi ça brûle, et que vous vous levez, vous dites non, je suis le mieux placé pour venir vous aider à éteindre le feu, et que devant le feu, vous n'arrivez pas à l'éteindre, finalement, vous serez plus le plus grand responsable que moi-même. Parce que, écoutez, la MONUSCO est venue. Ce n'est quand même pas pour rien qu'on a mis en place l'ONU avec la possibilité de ce qui est prévu au chapitre 7, c'est-à-dire d'imposer la paix. Mais devant ce que nous sommes en train de vivre dans ce pays, est-ce qu'il faut encore se cacher derrière la responsabilité première du gouvernement, ou bien nous devons, parce que nous sommes, vous savez, la RDC est également membre des Nations Unies, c'est un État des Nations Unies, et donc la RDC a tous les droits, comme tout autre pays a les droits, d'obtenir une mission de paix comme telle. Mais du moment où les casques bleus sont là, la MONUSCO est là, tout le monde est là, on ne peut plus dire la responsabilité première est de telle, la responsabilité deuxième est de telle. Non, en tous les cas, il s'agit des responsabilités.
Alors, il y a aussi des experts qui pensent que tous les casques bleus en poste sur le terrain sont avant tout membres de leurs propres forces armées nationales et ne sont que détachés pour travailler avec l'ONU. Cela veut dire que leur action et donc tributaire de beaucoup de facteurs.
Oui, bon, alors, à ce moment-là, vous comprenez qu'il y a eu un travail de refonte de ce que nous devons comprendre par les missions des Nations Unies dans le pays. En ce moment, si c'est vraiment ça, il y a tout un travail de réforme qui doit se faire pour que l'entendement soit le même. Parce que pour moi, lorsqu'on me dit qu'il y a une mission des Nations Unies qui vient, parce que nous sommes contributeurs, même à 0, je ne sais pas combien de pourcents, mais parce que nous sommes membres des Nations Unies, nous avons le droit, les populations civiles ont droit à la solidarité nationale, internationale, qui s'exprime à travers les missions des Nations Unies, et donc on ne peut plus, à mon sens, continuer à se cacher derrière ce que le gouvernement n'a pas fait pour justifier le fait, certaines situations qui peuvent arriver à nous faire comprendre qu'on n'est pas membre des Nations Unies. Vous voyez l'explication que je donne. Donc c'est pour dire que la MONUSCO, les Nations Unies doivent assumer leur responsabilité pleine, parce que cette responsabilité, ils ne la tirent pas nécessairement de la volonté des gouvernements, mais il y a aussi...
Mais dans les faits, M. Didon Keshi, vous ne pensez pas que tout est aussi lié à la volonté des pays d'accueil?
Il y a la volonté...
Vous accueillez une mission qui vient vous aider à maintenir la paix, mais entre-temps, vous faites comprendre à cette mission-là que c'est vous qui êtes propriétaire du pays, c'est vous qui devez prendre l'initiative, et donc l'action même de cette force de maintien de la paix est limitée.
Alors là,
dépend de la volonté des États d'accueil.
Si c'est ça, alors c'est
donc tout aussi lié, n'est pas la volonté de ces pays.
Peut-être le mot va être fort, peut-être alors à ce moment-là, on sait qu'on assiste à un marché des dupes. On assisterait à un certain marché des dupes où on ne sait pas exactement qui prend la décision, qui fait quoi. Parce qu'il faut... L'objectif premier, c'est de protéger les populations.
Maître Juvenal Mounoubou Moumbi, il y a une question qui vous adressait, elle vient de Kindu, au Maniema.
Kumbi Lusumba-Sumba Isaac depuis Kindu, chef-lieu de la province du Maniema. Les casques bleus font des sacrifices énormes et leur rendre hommage est un droit mérité. Par contre, il faut s'interroger sur le travail abattu par ces soldats dits de la paix. À mon avis, le bilan reste mitigé au regard des objectifs que se sont assignés les Nations Unies. L'ONU, par l'entremise des casques bleus, n'a pas su assurer une paix durable comme il est dit dans sa charte. Pour le cas de la RDC, le travail abattu par les casques bleus laisse à désirer à telle enseigne que l'on peut dire après l'avenir des casques bleus égale avant l'arrivée des casques bleus. Il faut donc pour la RDC une mission offensive et non défensive comme c'est le cas.
Honorable Monumbo Mumbi.
Je suis d'accord avec lui. C'est un bilan mitigé. Moi, je parlais d'un bilan controversé ou une action controversée. Et pourquoi? Parce que les exactions continuent, évidemment. Et dire que c'est un bilan mitigé, ça ne veut pas dire un échec, hein, en tout cas. Ça ne veut pas dire non plus une réussite ou un succès sur toute la ligne.
Il faut donc on peut pas dire que l'ONU a échoué dans sa mission de stabilisation
non,
et de maintien de la paix à travers le monde.
Ça serait une affirmation non vérifiable sur toute la ligne, hein, parce qu'il y a des cas où l'ONU a fait un travail formidable, et M. Nkishi l'a reconnu, tout comme notre ami Michel qui est à nos côtés. Mais il y a des cas où on s'est dit, mais dans ces cas, elle devrait quand même intervenir. Prenons le cas de Beni, quand on massacre des populations civiles. Il ne faut pas oublier ce que vous avez posé comme question, la souveraineté des États. Et nous savons bien quelle est la santé des collaborations entre la MONUSCO et le gouvernement. Il faut dire des choses comme ça se présente, la santé des collaborations entre la communauté internationale et les gouvernements de la RDC. C'est vrai que des hésitations, l'ONU pouvait en avoir. Mais moi, si j'étais conseiller militaire du représentant de l'ONU ici ou du secrétaire général, pour les cas de Beni, hein, on est en train d'égorger les gens. L'armée est presque démissionnaire, parce que c'est comme ça que ça s'est passé. Eh bien, j'allais conseiller en tout cas à ce que la MONUSCO interviennent dans pareil cas. Et si ça peut susciter des débats, la diplomatie pouvait gérer ça par la suite. Pourquoi? Parce que c'est la protection civile, comme ça a été répété ici, qui est en toile de fond. Et dans les récentes résolutions, comme la 2277, on insiste sur la protection civile. Donc j'allais conseiller en tout cas d'intervenir. C'est vrai que la nature de la MONUSCO est différente des autres forces peut-être qu'on a déjà connues ici. C'est différent de l'Artemis, par exemple. Artemis qui est arrivée en Ituri. On la vit offensive.
Artemis dépendait d'un pays, n'est-ce pas? Mais la MONUSCO, c'est plusieurs contributeurs.
Voilà, et là vous avez raison.
Et il y a aussi une lutte d'intérêts entre ces États qui contribuent, entre les États qui accueillent, entre les Nations Unies elles-mêmes. Et cela pose aussi beaucoup de problèmes.
Tout à fait, c'est une superstructure. Une superstructure avec plusieurs nationalités. Quand on parle de plusieurs pays, en relations internationales, on parle déjà de plusieurs intérêts. C'est ça, parce que les pays, ce sont les intérêts, les États. Et donc, plusieurs langues, plusieurs nationalités, il y a plusieurs réalités, au fait. C'est une complexité, c'est une mission complexe dans des situations, déployées dans des situations complexes également. Raison pour laquelle Artemis a été jugée beaucoup plus efficace à Ituri qu'est la MONUSCO. Et donc, je suis aussi d'accord que le travail de réforme au niveau du département de maintien de la paix, ça doit être un travail en continu. Hein, en continu, pourquoi? Parce que on voulait évoluer de la légitime défense jusqu'à l'offensive pour protéger les civils. Mais il me semble qu'on n'est pas encore arrivé à l'offensive, à des opérations, agir de façon offensive, sans se soucier. Parce qu'il peut y avoir des résistances étatiques, évidemment. Hein. L'ONU qui va intervenir, on est en train de tuer des gens. Il faudrait pas que l'ONU, il faut qu'on arrive là et que cela soit dit clairement que si une mission de maintien de la paix a été déployée, si au nom de la souveraineté, l'État hésite ou refuse ou s'abstient de prêter sa collaboration, eh bien, pour protéger les civils, que des opérations soient engagées de façon offensive.
Et vous ne pensez pas que les intérêts des grandes puissances peuvent constituer un obstacle par rapport à cette idée?
Oui, justement, pour qu'on y arrive.
Parce qu'il faut réformer les choses en amont, il faut que les grandes puissances soient disposées, n'est-ce pas, à la chaîne du Lest, hein, à faire des concessions par rapport à certains intérêts qui protègent à travers le monde.
Vous savez que la prédication au niveau des Nations Unies, c'est les droits humains. Les droits humains. Mais je sais que l'ONU, c'est l'ensemble, les systèmes des États. Il y a les intérêts, hein, les réalités des relations internationales. Et donc, je sais que pour qu'on arrive à ça, ça serait une évolution en tout cas. Hein, il y aurait des débats sans doute, c'est pas du tic au tac que ça peut s'opérer. Mais je pense qu'au niveau de New York, les discussions, les réflexions devraient continuer pour qu'on arrive effectivement à cette étape-là. Mais il y a des exceptions. L'exception, c'est comme la brigade d'intervention ici. Elle a reçu mandat d'ouvrir le feu, d'intervenir.
Et qui a des faits, le M23.
Bien sûr, et on a vu comment, lorsque FRDC, MONUSCO, brigade d'intervention sont intervenus, on a vu ce qu'ont été les résultats, c'est que ces mouvements rebelles a été défait. Donc voilà, donc il faut qu'on évolue en termes des études, des réflexions. Il faut aussi qu'on n'oublie pas la responsabilité étatique, gouvernementale ici. Il faut porter, la protection civile revient d'abord et avant tout à l'État. Merci. Mais l'ONU ne devrait pas s'abstenir. Lorsqu'il y a état de nécessité, il faut intervenir.
Merci. Maître Michel Kaboui, il y a une question qui vous est adressée.
Robert Rouame de Bukavu, au sud Kivu. Indéniablement, l'action des casques bleus est une bonne chose à travers le monde. Mais c'est encore une action qui demeure inefficace en RDC. Autant dire que pour le contexte actuel, pour les cas très particuliers de paix et de sécurité de la RDC, la méthodologie de travail des casques bleus appelle nécessairement à être améliorée pour que leur action rencontre réellement les désidératas des Congolais par rapport à ce qui devrait normalement être une mission onusienne dans cette partie de la planète Terre.
Maître Michel Kaboui.
Je suis totalement d'accord avec l'intervenant de tout à l'heure.
De Bukavu.
De Bukavu. Et ce que nous devons retenir, c'est que la MONUSCO a été mobilisée depuis 16 ans pour protéger les civils et pour soutenir le gouvernement dans ses efforts de consolidation de la paix. Or, à ce jour, ni la protection des civils, ni la consolidation de la paix n'est pas au rendez-vous. Ce que nous devons retenir aussi, c'est que la MONUSCO est la plus grande opération des Nations Unies au monde. Et qu'à ce jour, elle compte plus de 20 000 personnes, donc 20 000 casques bleus policiers ainsi que personnel civil. Ce que nous devons retenir aussi, c'est qu'il y a un budget conséquent qui est alloué à la MONUSCO. Soit un total de 1,398,475,300 $. Ça, ce sont les statistiques de l'année passée que nous pensons qui ont été reconduites.
Alors, à votre avis, vous, en tant qu'expert, avec tous ces facteurs-là, la mission la plus importante, avec un budget conséquent, un budget consistant, et pourquoi, en dépit de tout ça, la MONUSCO n'arrive pas à accomplir comme il se doit ses missions?
Justement, oui. Lorsque vous analysez les rapports de M. Ban Ki-moon de l'année passée, dont l'agence France Presse s'était procuré une copie, Ban Ki-moon lui-même reconnaît que la MONUSCO devrait se transformer en une force plus mobile, plus agile, capable de prévenir ou de répondre rapidement à des crises. Parce qu'il s'est avéré, que la MONUSCO, selon toujours Ban Ki-moon, c'était une force essentiellement statique et passive, et certains contingents n'opéraient que la journée et ne voulaient pas aller opérer dans des zones vulnérables. Vous comprenez directement que par rapport à tout ce qui précède, il faut à tout prix que la MONUSCO puisse se restructurer.
Alors, tout cela n'est pas aussi lié au fait que les Nations Unies n'ont pas leurs forces propres à elles seules. C'est des forces qui sont données par les États, et ces États-là, quand ils envoient leurs fils, n'est-ce pas, leurs filles, ces États ne sont pas disposés à exposer, n'est-ce pas, leurs enfants. Et est-ce que les Nations Unies ne peuvent pas plutôt, pour réformer rendre les actions efficace, envisager une réserve d'immunité permanente, n'est-ce pas, des soldats qui puissent appartenir aux Nations Unies, de façon permanente.
Ce que vous devez savoir, ce que les auditeurs doivent savoir, c'est que les casques bleus en soi sont considérés comme l'organe subsidiaire de l'ONU. Et à partir du moment où effectivement l'ONU n'a pas une armée, mais à partir du moment où ces militaires sont mis à la disposition de l'ONU, l'ONU commence à avoir un contrôle effectif sur ces casques bleus. Et par conséquent, lorsque des comportements, effectivement, lorsque les comportements illicites sont observés, ces comportements illicites peuvent être imputés à l'ONU ou à l'État contrôleur des troupes selon les partages de responsabilités. Mais à partir du moment où ces contingents sont mis à la disposition de l'ONU, l'ONU garde les contrôles effectifs et l'ONU en assume la responsabilité. Et dire que l'ONU n'a pas cette possibilité-là de contrôler la chaîne de commandement, cela est faux.
Est-ce qu'on peut envisager une réserve des soldats qui puissent appartenir de façon définitive aux Nations Unies?
Bon, cette approche-là n'est pas encore développée, mais nous pensons qu'il faut peut-être revoir certaines questions au niveau des chaînes de commandement. Mais jusqu'à présent, nous pensons et nous continuons à penser que les problèmes peuvent se poser peut-être au niveau de la chaîne de commandement. Mais comme je l'ai dit tantôt là, à partir du moment où ces contingents, les contingents sont mis à la disposition de l'ONU, l'ONU garde le contrôle effectif sur ces contingents et l'ONU contrôle tout.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre efficace, n'est-ce pas, l'action des Nations Unies, pour améliorer l'action des casques bleus à travers le monde? Vous avez évoqué les réformes qui ont été rêvées, n'est-ce pas, par les Nations Unies, M. Ban Ki-moon. À part ces réformes-là, il faut encore faire quoi?
Bon, évidemment, il faudrait peut-être...
D'abord, ces réformes doivent consister en quoi?
Oui, j'en reviens. Peut-être il faut voir dans quelle mesure permettre à chaque région, à chaque région d'avoir sa propre force, comme au niveau aussi au niveau de l'Afrique, il y a ce que nous appelons la force africaine en attente, qui est en train d'être mise en œuvre pour que désormais, là où il y a des conflits, là où il y a des conflits au niveau de l'Afrique, que cette force puisse prendre en charge ces genres de conflits plutôt et voir dans quelle mesure les éradiquer.
Une force qui soit autonome des Nations Unies?
Non, une force du moins au niveau de l'Afrique.
Qui dépend des États africains?
Oui, totalement de l'Afrique, donc avec la force africaine en attente, dont chaque brigade proviendra de chaque région économique.
Et il ne va pas se poser le problème de financement de ces forces, parce que souvent en Afrique, les initiatives sont là, mais les gens sont limités par rapport au financement, n'est-ce pas, de toutes ces initiatives.
Non, nous pensons plutôt que c'est la volonté politique qui va primer surtout. Comme l'Afrique a institué cette force-là et a fait à ce qu'il y ait une dynamique qui sera imprimée au niveau des régions économiques et que chaque région économique envoiera une brigade au niveau de la force en attente, de cette force en attente, nous pensons que cela sera opérationnel d'ici là et l'Afrique désormais aura sa propre armée pour éradiquer tous ces conflits qui déchirent donc certains de ces territoires.
Et en conclusion?
En conclusion, nous saluons encore une fois de plus le courage de tous ces casques bleus, de tous ces hommes et femmes qui travaillent pour le service de la paix. Et nous pensons que l'ONU doit tout faire, surtout pour juguler les problèmes d'abus sexuels qui, en tout cas, ces derniers temps, ont entaché la crédibilité de l'ONU.
Monsieur Dino Nkishi, votre conclusion, que faut-il pour améliorer, n'est-ce pas, l'action des casques bleus à travers le monde?
Qu'ils jouent le franc jeu avec la République démocratique du Congo.
Qu'est-ce que vous appelez jouer le franc jeu?
Jouer le franc jeu, c'est-à-dire que vous acceptez de venir aider la République démocratique du Congo à juguler toutes les situations que nous connaissons. Faisons-le de bonne foi et terminons, faisons autre chose. Au lieu d'être là, assister à des situations que même les citoyens civils peuvent arrêter.
Donc, vous pensez que le gouvernement congolais facilite aussi la tâche à ces casques bleus?
Écoutez, il s'agit de protection des civils. Moi, je ne connais pas un seul gouvernement au monde, même si c'était le gouvernement du Congo, qui verrait les casques bleus en train d'empêcher aux terroristes qui entrent à Dambéni pour tuer, et la MONUSCO s'élève pour s'interposer, pour arrêter, et que le gouvernement vienne leur dire non, n'empêchez pas qu'on tue les gens à Beni. Je ne connais pas un tel gouvernement qui puisse exister.
Maître Juvenal Mounoumoubi, votre conclusion, qu'est-ce qu'il faut pour améliorer l'action des casques bleus, rendre ça efficace à travers le monde?
Oui, tout d'abord, pour le gouvernement, qu'est-ce qu'il faut? Il faut réaliser que la responsabilité de la sécurisation du pays et des populations lui incombe. Et pour la MONUSCO, évidemment, il faudrait, lorsqu'elle constate qu'il y a péril en la demeure, qu'elle intervienne directement, qu'elle n'ait pas peur de susciter un incident diplomatique. Pourquoi? Parce que son mandat, il est bien dit que c'est la protection de la population civile.
Et il faut une réforme des fonds en comble.
Évidemment, tout ça c'est en attendant une réforme des fonds en comble. Votre idée de réserve, constituer une réserve, c'est une bonne chose. Moi je soutiens ça. Des soldats qui seront installés de façon permanente et qui serait déployée. C'est ce qu'on a, on considérerait réellement comme une armée de l'ONU. Parce que je ne suis pas d'accord avec Michel qui parle de l'armée de l'ONU. Ça n'existe pas encore.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Hippolyte Kapanga qui était à la technique. Merci à toute l'équipe. Alain Héron, Gabéry, François Loutiaka, sous la supervision de Martin Sebou-Jangoué. À la présentation, Guy Mathieu, merci. Et à ce mardi pour un autre débat. De bonnes suites des programmes sur Radio Capital.